Radio Immo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi et Bien Ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans ce 22e numéro, 3e saison. Vous avez été extrêmement fidèles. Merci. Car sans vous, nous ne serions pas là, tout simplement. Vous êtes bienvenue dans ce grand rendez-vous avec mon complice du jour, Guillaume Chazoulière. Comment ça va, Guillaume ?
Du jour et de tous les mois.
Absolument.
Ça va, Sylvain ? Ce mois-ci, nous sommes ravis d'accueillir sur notre plateau Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au logement. Bonjour.
Bonjour.
Avec vous pendant 30 minutes, près de 30 minutes, aborder un petit peu toutes les réformes qui vont concerner les acheteurs, les investisseurs, les locataires dès l'an prochain. Et avec un zoom tout particulier sur l'élargissement de MaPrimeRénov'. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une aide destinée aux propriétaires qui réalisent des travaux de rénovation énergétique.
Absolument. Merci Guillaume. Et bonjour Madame la Ministre. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté de participer au rendez-vous de l'immobilier. C'est le 20e numéro. Donc au sommaire d'octobre, toutes les séquences que vous aimez, notamment les experts, ça vous concerne en trois parties. Notaires, agents immobiliers, avocats qui répondront à vos questions. On n'oubliera pas non plus le focus de l'immobilier de David Benbassa. Ça, ainsi que la séquence de Stéphane Moquet, droit dans l'IMO. Nous avons aussi initié une nouvelle séquence avec l'UFC Que Choisir pour vous donner les clés, les amis, sur les éventuelles arnaques, les dérives que parfois on connaît dans l'immobilier, pour vous donner les clés de compréhension. On parlera notamment des labels RGE. Important, on va essayer de faire un peu de pédagogie et vous parler de ce site extraordinaire internet qui vous permet vraiment de faire les bons choix, qui s'appelle faire.fr. On va en parler tout à l'heure. C'est parti pour le grand rendez-vous de l'immobilier d'octobre. 22e numéro, ça commence tout de suite après ça.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
Eh bien, notre grand témoin, c'est Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au logement dans le gouvernement de Jean Castex. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes en place depuis juillet,
me semble-t-il. Oui, c'est ça, 3 mois à peu près.
Voilà, on est très heureux de vous recevoir sur Radio Immo, enfin, avec nos partenaires de Capital, pour directement parler logement. Voilà, parler logement et bien sûr transition écologique, de la rénovation énergétique. C'est le sujet du jour, clairement. Le bâti, c'est un vrai, vrai sujet. En tout cas, on a, avec Guillaume, tenté d'essayer de circonscrire le sujet pour avoir et apporter des réponses à nos auditeurs. N'est-ce pas, Guillaume ?
Oui, bonjour Madame la Ministre. Alors, je vais commencer par une première question. Vous êtes engagé, enfin le gouvernement s'est engagé à renforcer le dispositif Pinel, le prêt à taux zéro, le prêt à taux zéro dans le neuf notamment, suite aux concertations avec les professionnels. Ça sera des amendements qui seront déposés dans le cadre du PLF, me semble-t-il. Alors, quelles sont les pistes de réforme que vous envisagez pour ces deux dispositifs ? Pour être même plus concret, est-il envisageable que le prêt à taux zéro soit rehaussé de manière à ce qu'il finance 40% du coût de l'acquisition,
comme
partout
il était,
en France, comme c'était le cas
comme
avant.
Il était à l'origine.
Alors, le gouvernement, on est engagé dans deux directions, changer de dimension sur la rénovation énergétique, on va en parler dans quelques minutes, et continuer à soutenir la construction neuve en France. On continue à avoir besoin de neuf, en particulier dans les zones tendues. Simplement, il faut que ce neuf soit à la fois accessible et le plus écologique possible, y compris en termes de consommation d'espace. Donc ça, c'est le cadre général. Sur les aides fiscales, moi j'ai bien entendu les professionnels qui disent on a besoin de visibilité et on a besoin de soutien dans une période qui est plutôt une période de trou d'air pour la construction neuve. Donc côté visibilité, j'ai confirmé que le dispositif Pinel, donc pour l'immobilier locatif, et le dispositif prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété sont maintenus tels quels jusqu'au 31 décembre 2021. Donc pendant les 15 mois qui viennent. La concertation que j'ai ouverte, c'est savoir ce qu'il se passe après, donc pour les années 2022 et suivantes. Donc nous sommes avec une logique qui sera une logique très écologique sur la partie Pinel, pour qu'on soit sûr de soutenir de l'investissement locatif, un, là où il y en a besoin, ce qui pose la question des zonages, et deux, de l'investissement de qualité. Sur la partie prêt à taux zéro, pour moi, c'est plutôt un instrument social, puisque c'est de l'accession sociale à la propriété. Donc il faut permettre à tous ceux qui le souhaitent et qui le peuvent de pouvoir investir et devenir propriétaires de leur propre logement, ce qui pose effectivement la question des taux, des zones, etc. Je ne veux pas aller plus loin aujourd'hui. Le calendrier, c'est une concertation en cours. Les premières réunions ont eu lieu, elles ne sont pas terminées. Les professionnels, mais aussi les représentants des usagers, des Français, se sont exprimés. Et on va aboutir à un ou plusieurs amendements parlementaires dans le projet de loi de finances. Deuxième quinzaine d'octobre, en gros. Donc, c'est pas complètement fini. Donc, je peux pas vous dire encore exactement quelle est la direction donnée. Mais la direction, c'est maintenir et améliorer ces deux dispositifs.
Alors, justement, je voudrais qu'on continue sur cette lancée. Bien évidemment, on a bien compris qu'effectivement, vous concertiez pour qu'en 2022, on puisse avoir une issue après 2021. Je pense que c'est un signal qui a été plutôt bien perçu par les professionnels, clairement. Se sont posées beaucoup de questions. Vous avez parlé du PTZ. Le PTZ est un instrument qui resolvabilise aussi les personnes lorsqu'ils ont, ils accèdent à la propriété. C'est surtout des primo-accédants dont il s'agit. Or, depuis le début de l'année, on observe une réduction de 5% du volume total des primo-accédants et on a l'impression qu'avec la restriction d'accès au crédit, on se pose la question, donc je sais que vous pouvez pas plus développer que ça, mais on peut se poser la question pourquoi ne pas rétablir finalement dans sa forme originelle le PTZ et pourquoi faut-il attendre 2022 pour renforcer toutes ces aides quand vous savez qu'aujourd'hui on est à moins 53% de réservation dans le neuf, qu'on a une crise foncière grave dans les territoires et que ça a un impact direct sur le logement des Français.
D'abord, je crois que pour les dispositifs fiscaux, il faut les manœuvrer avec précaution. Donc je pense que c'est une décision sage de dire en octobre que les dispositifs sont maintenus en janvier. Parce que sinon, on crée du stop and go en permanence. Donc je pense que la bonne date à laquelle faire évoluer, c'est dans un an, dans 15 mois. Ensuite, le prêt à taux zéro, oui, moi j'y suis attachée parce qu'encore une fois, c'est un dispositif social. On a une question de savoir si un prêt à taux zéro, donc sous cette forme-là, alors que les taux sont de toute façon très bas à la base, c'est la bonne manière d'aider, ou s'il faut le faire un peu différemment. Donc on a une question technique de savoir quelle est la meilleure manière de soutenir un achat immobilier, notamment pour des ménages qui accèdent pour la première fois à la propriété de leur résidence principale. Et après, effectivement, une question d'égalité sur le territoire, qui, moi, me paraît importante, sachant que je suis au ministère de l'écologie et ravie d'y être, parce que je pense que le logement doit y contribuer, et que la consommation d'espace naturel, c'est aussi une question qu'on se pose. Donc ça, c'est bien, je pense, de prendre quelques semaines pour trouver le bon point d'atterrissage sur le prêt à taux zéro. Après, il est exact, et moi ça me remonte beaucoup, que les normes de prudence du Haut Conseil à la stabilité financière font que pour certaines banques, les prêts se sont beaucoup restreints. Ça sera réexaminé d'ici à la fin de l'année. Je pense que c'est une discussion qu'il faut que nous ayons avec le ministère de l'Économie et des Finances et les professionnels. Moi, je comprends la logique qui est, dans une période de crise, ne pas laisser des ménages partir dans des projets qu'ils n'assumeraient pas finalement et qui les mettraient en difficulté dans quelques années. Et donc, c'est une question d'équilibre. Et enfin, sur le neuf, pour en discuter beaucoup avec les professionnels, je pense que la question de la solvabilité des ménages n'est pas la seule question ou le seul enjeu de comment est-ce qu'on relance le neuf dans le pays. Il y a aussi la question du déblocage d'opérations qui sont en cours d'instruction ou de permis de construire. On a été confinés 2 mois. Les mairies, les communes, les intercommunalités ont été de facto assez largement à l'arrêt pendant toute la période entre les deux tours des municipales puis l'élection des nouveaux exécutifs intercommunaux. C'est de la faute de personne. On a vécu une année bouleversée. Mais du coup, il y a aussi un sujet de mobilisation technique avec en plus des matérialisations des procédures, accélération. Donc tout ne vient pas d'une éventuelle insuffisance de la demande, mais je pense d'un système qui s'est provisoirement bloqué et qu'il faut qu'on arrive à débloquer collectivement.
Ok, vous avez conscience que la lisibilité pour les professionnels comme pour les usagers, elle est importante aujourd'hui.
Mais c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vraiment stabiliser les deux grandes aides fiscales qui tirent le marché locatif d'un côté et le marché de l'accession à la propriété de l'autre, qui sont des aides qui sont globalement plutôt acceptées par les professionnels, et dire que l'amélioration de ces aides et le questionnement autour de ces aides, c'est pour dans 15 mois. Parce que voilà, les dossiers pour dans 15 mois vont commencer à arriver. Les projets immobiliers, ça prend longtemps à monter. Et donc, c'est important de le faire à un moment où chacun a le temps aussi de faire évoluer ses pratiques en fonction de l'évolution des règles.
Merci, madame la ministre.
On va avancer sur d'autres sujets parce qu'il y a beaucoup de sujets à évoquer. Alors, il y a une réforme. Celle-là, ce n'est pas 2022, c'est 2021. Ça devait même être 2020. Elle a été repoussée. Elle rentre en vigueur en 2021. Les APL. À partir de l'an prochain, on calculera les APL selon l'année en cours. C'est ça, contemporainisation des APL.
Alors APL en temps réel, c'est plus facile à prononcer.
En temps réel, c'est très bien ça. Alors qu'avant, le calcul était, jusqu'à présent, le calcul était sur l'année N-2. Grosso modo, il y a des allocataires qui vont, ceux qui ont vu leur revenu augmenter vont perdre des APL. Et à l'inverse, ceux qui ont vu leur revenu baisser vont voir leurs APL augmenter. Est-ce qu'on a aujourd'hui une première étude d'impact là-dessus ? Qu'est-ce qu'on sait ? Combien d'allocataires vont voir leurs APL baisser et les autres augmenter ?
C'est une réforme qui a été conçue il y a 2 ans et qui était une réforme qui était à un moment où les revenus étaient plutôt en augmentation. En réalité, maintenant, on sait qu'on va avoir beaucoup de Français, beaucoup de ménages dont les revenus seront en baisse en 2020. Évidemment, malheureusement, ceux qui ont perdu leur emploi, mais aussi ceux pour lesquels le chômage partiel à 84% n'est pas compensé à 100% pour leur employeur, ceux dont les heures supplémentaires ont baissé ou ont disparu, des petits boulots qui ont disparu, etc., etc. Donc cette réforme, en fait, va être une réforme d'amortisseur social, en réalité. Elle va être ce qu'on appelle contracyclique, c'est-à-dire qu'elle va plutôt soutenir les ménages avec les APL dans une période où le reste des revenus baisse. Du coup, je vous avoue qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir une estimation précise du nombre de ménages gagnants et du nombre de ménages perdants et du bilan économique de cette réforme.
Ça sera 700 millions à peu près, je crois.
Pour l'instant, il y a un chiffre en projet de loi de finances qui est autour de 700 millions, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'économie qui était prévue initialement. Mais je voudrais vraiment qu'on prenne ce chiffre avec beaucoup de prudence, parce que je ne suis pas sûre que ce sera le montant constaté. Moi, j'ai vraiment l'intime conviction qu'on va avoir beaucoup de ménages qui, en fait, bénéficient de cette réforme. Et donc, je ne sais pas dire aujourd'hui, compte tenu des prévisions de masse salariale, des prévisions d'emploi, etc., et d'activité, si on parle de 700 millions d'économies ou d'autres choses, ou de presque pas d'économies, voire pas d'économies du tout. Donc, il faut mettre un chiffre en loi de finances. En loi de finances cette année, le budget global des APL augmente. Donc, on sait que la dépense APL va augmenter de toute façon. Ce chiffre est une indication, mais guère plus à ce stade.
En tout cas, pour vous, c'est une réforme juste. Et est-ce qu'il y a un dispositif prévu pour amortir le choc pour les étudiants, notamment ?
Alors, d'abord, pour moi, c'est une réforme juste. Je pense que c'est important de le dire. On ne change pas le mode de calcul des APL. Donc, on ne change pas les droits. C'est très important de le repréciser. En revanche, on calcule les droits sur les derniers revenus connus et pas sur les revenus d'il y a 2 ans. Et c'est quand même plus juste de calculer les droits sur les revenus qui viennent d'avoir lieu plutôt que des revenus d'il y a 2 ans ou plus, compte tenu du fait que les droits sont calculés chaque année. Ça rentre en vigueur au 1er janvier 2021. De façon automatique, on a toute une campagne de communication qui aura lieu en novembre. Après, pour les étudiants, on est dans un cas particulier. C'est le seul cas dans lequel on a amélioré les droits. Parce qu'on s'est rendu compte qu'un étudiant qui travaille avait un système dans lequel il y avait une espèce de plancher. Donc, avec très peu d'activité, il y avait une espèce de forfait pour calculer les ressources. Et quand l'activité augmentait, ben on prenait en compte l'augmentation d'activité. Donc, en réalité, on baissait les APL. Donc, on a supprimé cette évolution. Et maintenant, c'est un forfait, ce qui veut dire qu'un étudiant qui travaille ne verra pas son APL baisser parce que il ou elle travaille. Je pense que c'est important, surtout pour des jeunes qui ont très peu de ressources. C'est le seul cas dans lequel on a modifié les règles de calcul et c'est au profit des étudiants pour être sûr que les étudiants n'auront pas d'effet négatif dans cette réforme. Pour tout le monde, sinon c'est toujours la même règle de calcul.
Du coup, c'est beaucoup plus juste.
Exactement, c'est une réforme de justice.
Voilà, de prendre en compte la réalité. Alors, on avance justement, beaucoup de publications ont été faites. On pense que l'État va ponctionner 1 milliard à Action Logement.
On l'a annoncé, donc dit, là, voilà. On n'en est plus tout à fait à « on pense ».
Voilà, on pense. Pour l'instant, rien n'est acté.
C'est dans le projet de loi de finances également.
Alors, c'est l'ancien Action Logement 1% patronal, le rapport entre l'emploi et le logement, toujours. Concrètement, quelles sont les conséquences sur les prêts au logement qui sont versés par l'organisme? Est-ce que ça va clairement amputer les missions que se fixe Action Logement? Parce qu'apparemment, ils n'ont pas l'air tout à fait d'accord.
Alors, je voudrais rassurer là-dessus. Action Logement est un organisme paritaire qui, à mon avis, a toute sa place dans le paysage, qui soutient le logement des salariés. Et je pense que c'est important que cette politique publique reste forte. Parce que soutenir le logement des salariés, c'est soutenir la mobilité salariale aussi. Et moi, j'ai rencontré trop de chefs d'entreprise qui m'expliquent qu'ils ont du mal à recruter parce qu'il faut que les gens déménagent, pour ne pas me dire que le logement des salariés, y compris la mobilité, c'est un sujet important. Après, Action Logement a accumulé de la trésorerie. Pour diverses raisons, et la trésorerie libre, si je peux dire, sur la partie qui s'appelle Action Logement Service, c'est à près de 6 milliards d'euros. Donc constatant que cette trésorerie a été accumulée et qu'on est dans un moment, d'ailleurs, y compris où la dépense des APL, on revient à la question précédente, va augmenter cette année, on a mis à contribution Action Logement pour la mobilisation exceptionnelle de cette trésorerie. Il en reste. Et ça ne met pas en péril la programmation d'Action Logement et le rôle important que Action Logement joue, à la fois dans son rôle de foncière et dans son rôle d'accompagnement auprès des salariés et sur le secteur du logement. Nous souhaitons par ailleurs continuer à travailler avec les partenaires sociaux sur la gouvernance d'Action Logement, parce que si cette trésorerie s'est accumulée, c'est aussi que certaines activités ont pris du retard et qu'il faut qu'on comprenne comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur d'Action Logement, comment est-ce qu'on peut améliorer le fonctionnement et donc la gouvernance. Et ce sont des discussions qui se sont engagées avec les partenaires sociaux, qui ne sont pas du tout stabilisées pour l'instant et qui mèneront peut-être à une évolution et qui n'est pas encore décidée.
Vous n'avez pas l'objectif de démanteler l'organisation actuelle?
Moi, je pense qu'Action Logement est un acteur important et donc ça me paraît nécessaire que ça reste ainsi.
Merci.
Très vite. Pour terminer, une dernière question d'actualité. C'est un fait divers intervenu fin août qui a fait beaucoup de bruit, de retraités qui sont rentrés chez eux, qui se sont retrouvés à la porte parce que leur maison était occupée. Alors vous avez soutenu du coup un amendement pour protéger les propriétaires contre les squats. Concrètement, en quelques mots, même si c'est compliqué, en quoi c'est la nouvelle réglementation qui est encore en débat à l'Assemblée.
J'ai besoin d'une ou deux minutes.
Vous les avez.
Voilà. Pour vous dire d'abord que ça ne touche l'amendement que nous avons proposé avec la majorité présidentielle et qui a été voté dans une loi récente, la loi ASAP. Cet amendement touche la situation particulière des propriétaires qui sont confrontés à un squatteur. Et dans la discussion parlementaire, il y a eu beaucoup de débats pour savoir s'il fallait modifier les procédures, y compris dans le cas des relations entre propriétaires et locataires, et je ne l'ai pas souhaité. Parce que là, on est vraiment dans un cas particulier du squat. Ceci étant dit, aujourd'hui, il existe une procédure exceptionnelle administrative dans laquelle vous saisissez le préfet pour que le préfet demande le recours à la force publique, donc en français à la gendarmerie ou à la police d'intervenir. Mais ça n'était possible que pour la résidence principale. Et le cas que nous avons vu à Théoule-sur-Mer, et il y en a eu deux ou trois autres, et du coup ça en a fait émerger quelques-uns, sont des cas particuliers qui ne sont pas des résidences principales. À Théoule, parce que c'était une résidence secondaire, dans la Nièvre, parce que c'était une dame qui était à l'EHPAD pendant un certain temps, donc sa maison n'était plus vraiment sa résidence principale. Donc on est rentré dans des débats juridiques pour savoir si la procédure rapide s'applique à toutes les violations de domicile ou pas. Donc on a simplifié en disant quand on est dans du squat et de la violation de domicile chez un particulier, alors la procédure administrative s'applique et on l'a rendue plus rapide puisque nous avons tenu à ce que le préfet n'ait que 48 heures pour prendre une décision de recours à la force publique et ensuite que la mobilisation de la force publique puisse avoir lieu 48 heures ou même 24 heures après la décision.
La violation
donc
de domicile
c'est administratif, concerne... c'est rapide.
D'accord. La violation de domicile concerne aujourd'hui la résidence principale comme la résidence secondaire.
Exactement.
Jusqu'à présent, ça concernait...
Jusqu'à présent, il y avait une ambiguïté et donc ça ne s'appliquait pas.
D'accord.
Voilà. Voilà, je gage d'ailleurs qu'on renouvellera ce type d'intervention assez régulièrement, parce qu'effectivement, les cas arrivent, bien évidemment. Madame la ministre, vous restez avec nous. Pour la deuxième partie de notre entretien, dans un instant, on se verra aussi avec un reportage et des micro-trottoirs. On vous demandera d'ailleurs de réagir à ce sujet. On enchaîne tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. de ma voix, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie.
C'est bien ici.
Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail.
C'est bien ici.
Et il adore nager.
C'est bien ici.
C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
Et c'est bien ici.
Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
Trouble in your brain, anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need a hero, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you, connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci. Vous êtes toujours avec nous pour ce 22e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Oui, c'est déjà la 3e saison. Et dans ce Grand Rendez-vous, c'est un moment que vous aimez particulièrement. Ça vous concerne. C'est maintenant avec nos experts immobiliers qui vont répondre à vos questions, comme c'est l'usage. Salut Vincent.
Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Notre premier expert est une experte et une habituée du plateau, c'est Marie Chopin-Texier. Bonjour.
Bonjour à tous.
Notre notaire au sein de l'étude Chevreux à Paris. Marie, première question, elle nous est posée par Alexandre, il est à Paris. Il est en concubinage avec une nouvelle compagne, ils envisagent ensemble d'acquérir un appartement, pardon. Il se demande si créer une SCI, une société civile immobilière, ça a un avantage.
Alors, je voudrais tout de suite rappeler que on ne crée pas de SCI dans toutes les situations et que chaque conseil est vraiment particulier. On ne conseille pas, par exemple, de la même façon un couple de concubins, la trentaine sans enfants, qu'un couple de 40 ans avec chacun des enfants d'une première union. Ça, c'est très important de le rappeler. Donc, chaque situation doit faire naître une consultation spécialisée et individualisée. Ensuite, en termes financiers, constituer une société aujourd'hui pour acquérir, on ne paie pas moins cher en droit d'enregistrement quand on achète un immeuble ou un appartement via une société ou en direct. Les droits vont être exactement les mêmes. Après, c'est plus dans son fonctionnement que la société peut être avantageuse. J'ai relevé trois avantages dont je peux vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, on va pouvoir donc aménager les statuts. On a une grande liberté pour aménager les statuts d'une société civile au niveau de la gérance. On va pouvoir désigner l'un des concubins comme gérant ou les deux concubins gérants et puis aménager leur pouvoir, aller jusqu'à donner un pouvoir de vendre le bien immobilier au sein même de l'objet social de la société dans les statuts. Donc ça, c'est très important de le signaler. Le deuxième avantage, c'est qu'on va éviter certains défauts de l'indivision. Vous savez que dans une indivision, tout indivisaire peut demander à tout moment à sortir de cette indivision et qu'en cas de désaccord entre les concubins, on va jusque devant le juge et c'est du coup un partage judiciaire.
Et on peut même provoquer la vente par anticipation.
Alors, le tribunal pourra aller jusqu'à provoquer la vente, voilà, s'il n'y a pas d'accord qui est trouvé. Via des statuts de société, on va pouvoir aménager donc ces éventuels problèmes et on va surtout pouvoir éviter cette action en partage de l'un des indivisaires. L'un des associés peut aller en justice demander la dissolution judiciaire de la société, mais c'est beaucoup plus restreint puisqu'il faut ce qu'on appelle un juste motif pour pouvoir le faire. Et une simple mésentente entre les associés ne va pas aller jusqu'à provoquer cette dissolution judiciaire de la société. Donc voilà, on est quand même dans une situation qui est plus pérenne via une société civile quand on achète un bien entre concubins.
C'est quoi un juste motif, juste pour l'illustration?
Alors un juste motif,
auditeurs.
ça peut être un dysfonctionnement grave dans la société ou que la société elle-même mette en péril la situation de l'un des associés. Donc ça va vraiment...
Si c'est un couple et que c'est la séparation d'un couple, est-ce que c'est un juste motif?
Pas forcément.
D'accord.
Et juste une dernière question, ça se fait beaucoup? On parle d'une niche ou... Par exemple là, c'est un jeune accédant à la propriété.
C'est cool, ouais.
De créer une société,
ouais.
On crée des sociétés dans
non,
ce cas.
Non, mais des jeunes couples comme ça qui font ça, oui, ça se
oui.
fait beaucoup
ah, oui,
plus
oui,
en plus.
Oui. Oui. Et ça peut vraiment être une bonne chose d'aller
oui,
faire une société.
C'est une pratique de plus en plus développée, oui,
d'accord,
bien sûr.
Alors par contre, voilà, une société, oui, mais là encore, bien encadrée, avec des statuts bien rédigés. On trouve des statuts aujourd'hui un petit peu partout et qui ne sont pas forcément bien rédigés. On peut faire beaucoup de choses avec des statuts de société, mais il faut que ce soit vraiment bien écrit et bien fait.
Alors juste en complément, une petite information. Est-ce que c'est bien de détenir la résidence principale en SCI?
Alors, on peut la détenir. Alors, c'est encore mieux de l'encadrer dans les statuts en prévoyant effectivement que les concubins, durant le concubinage, vont pouvoir y loger leur résidence principale. Mais oui, c'est tout à fait possible.
Voilà pour la réponse pour Alexandre. Une autre question maintenant, Marie. Laurence, elle nous écrit du Mans. Elle a hérité d'une maison. Elle s'inquiète de devoir la vider et la vendre dans l'urgence pour régler les droits de succession. Qu'est-ce qui se passe si la maison n'est pas vendue dans le délai de 6 mois? Et qu'est-ce que c'est que ce délai de 6 mois?
Alors, c'est souvent une grosse angoisse, voilà, des héritiers, parce que c'est vrai qu'il y a le décès qu'il faut déjà, voilà, encaisser, si je puis dire. Et puis ensuite, il faut s'occuper de vider une maison et puis de la vendre. Ce délai est très court. Ce délai, il est fixé par le Code général des impôts. Rappelons qu'on a 6 mois pour déposer une déclaration fiscale de succession à l'administration fiscale et payer les droits de succession qui sont liés. Ce délai, il est porté à 1 an, rappelons-le quand même, quand le décès a lieu à l'étranger, ce qui est un cas de plus en plus fréquent. Donc ce délai, il faut qu'il soit respecté. Il n'est pas possible d'aller négocier avec l'administration fiscale. On nous pose souvent la question. On ne peut pas aller...
C'est pas négociable.
C'est pas négociable, voilà. Donc on doit payer et on s'expose à des pénalités de retard et une éventuelle majoration si on ne règle pas dans les délais. Rappelons que les intérêts de retard, c'est 0,20% par mois de retard si on ne règle pas l'administration fiscale dans le délai de 6 mois. Et on peut ensuite avoir des majorations, c'est-à-dire au bout du 13e mois après le décès, on peut avoir 10% de droits majorés, si on ne dépose pas la déclaration. Et ça peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que si l'administration, si la vente de la maison tarde et que l'administration va jusqu'à mettre en demeure l'héritier de déposer sa déclaration de succession et de payer les droits, on peut aller jusqu'à une majoration de 40% si on n'y répond pas dans les 90 jours. Donc voilà, quand on hérite d'un bien immobilier, même si c'est très fastidieux de le vider et de le mettre en vente, un conseil, il ne faut pas trop tarder. Voilà. Donc il y a des solutions qui existent. On peut déposer un acompte auprès de l'administration fiscale. On hérite parfois aussi de liquidités on est bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Donc on peut, même si la maison n'est pas vendue, déposer un acompte et régler au moins une partie des droits. Ça va venir diminuer les éventuels intérêts de retard qui pourraient être dus. Et on peut aussi déposer une déclaration fiscale à l'administration en insérant ce qui s'appelle une mention express, c'est-à-dire qu'on vient signaler à l'administration qu'on est dans un processus de vente et qu'on se réserve le droit de venir modifier le prix, parce que vous savez comme moi, quand on met un bien en vente, on ne le vend pas toujours au prix espéré. Et voilà, ça nous permet de venir rediscuter ensuite avec l'administration fiscale.
Donc si on ne l'a pas vendu au bout de 6 mois, on a quand
des solutions existent. Des solutions, voilà, il ne faut pas rester bloqué, mais il ne faut pas perdre trop de temps non plus.
En fait,
dans
vaut mieux prendre langue avec l'administration fiscale pour leur expliquer, et en général, ça se passe plutôt bien.
L'administration a un pouvoir discrétionnaire.
D'accord, parce que si vraiment vous ne pouvez pas la vendre, c'est vrai, il y a des situations où la maison, il faut 1 an pour la vendre. On ne parle pas de Paris, on parle
puis,
de la
Marie, province. Vous me disiez aussi que par exemple à Paris, le problème ne se posait pas souvent, mais en région, le bien problème sûr. Était beaucoup
Exactement,
plus récurrent.
La situation n'est pas du tout la même. Sur Paris, on a moins d'inquiétude parce que les marchés...
Tout ce qui est zone tendue, mais une résidence secondaire, par exemple, difficile à vendre, par exemple, normalement, on a l'écoute de l'administration fiscale, je suppose.
C'est difficile, donc il ne faut vraiment pas perdre trop de temps.
D'où l'intérêt aussi de s'entourer de professionnels, notaires, avocats, éventuellement.
Merci Exactement. Beaucoup Marie.
Voilà. Merci
Marie
à vous.
Texier, votre étude, c'est l'étude Chevreux à Paris. Et puis vous, pour poser vos questions à nos experts, rendez-vous sur Facebook dans le groupe Le Club des Proprios, géré par Capital. À tout à l'heure.
Eh bien, merci l'ami Vincent, vous êtes très en forme. Ben, à tout à l'heure avec un expert. Et là, il s'agira d'un expert, les amis, agent immobilier. À tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
Et oui, chaque mois, dans son édito, l'ami David Benbassa nous éclaire sur un sujet bien précis. Salut David.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, très bien.
Alors ce mois-ci, vous êtes intéressé, comme chaque mois, mais là, c'est le rebond des locations meublées.
Effectivement. Je suis venu le mois dernier et je vous ai parlé de cette euphorie de recherche immobilière post-déconfinement. Aujourd'hui, un petit coin sur le marché de la location avec, depuis la rentrée, le retour progressif de la location classique meublée et qui, on va le voir, se fait au détriment de la location touristique de courte durée. Alors, je vous le disais, la réaction des bailleurs a été très rapide dès le déconfinement. En mai 2020, avec la reprise du marché, le volume d'annonces de location sur Bien'ici a explosé. Si on regarde les annonces de location meublée, la progression a été de plus de 50% en mai 2020 par rapport à la moyenne des mois précédents. Donc, une envolée de ce nombre d'annonces de location meublée. Alors, on connaît cette période traditionnelle de hausse avril-mai, et ça vient de la demande des étudiants, mais l'effet est particulièrement visible cette année où la part de location meublée a gagné plus de 4 points par rapport à l'année 2019. Alors actuellement, le volume de logements de location meublée représente 10 à 15% de l'offre de location sur Bien ici. Si on regarde maintenant la fraîcheur des annonces, ça c'est important, sur le troisième trimestre 2020, on constate qu'un tiers des annonces de location meublée diffusées sur Bien ici le sont depuis moins d'un mois. Deux tiers d'entre elles le sont depuis moins de 3 mois. Ce qui signifie et finalement ce qui montre cette réelle montée en puissance de la location meublée, c'est finalement que sur l'année 2020, 95% des annonces de location meublée diffusées finalement le sont depuis le déconfinement. Alors, bien entendu, ce phénomène s'explique de manière assez logique dans ce contexte actuel. La baisse de la fréquentation touristique et notamment finalement la disparition des touristes étrangers.
Airbnb.
Effectivement, c'est un impact important. Ça a rendu la location de courte durée finalement moins rentable pour les bailleurs, tout simplement. Alors, on n'oublie pas aussi les différentes contraintes de ce type de location, comme l'enregistrement du logement dans les mairies ou le nombre de nuits limitées. Effectivement, ça a un impact important. Ça peut décourager. Donc, la location meublée, c'est bien de le préciser, a quand même certains avantages par rapport à la location classique. On va parler tout d'abord de la durée de location. Le bail est renouvelable classique d'une durée d'un an, mais il peut être de 9 mois pour les étudiants. Et si on parle de bail mobilité, on est sur une période de 1 mois à 10 mois. Si on regarde maintenant le montant des loyers, et ça va avoir une incidence sur le rendement, on constate généralement qu'ils sont plus élevés, de l'ordre de 15%. Encore un élément intéressant. Et si on regarde l'aspect, là, d'un point de vue fiscal, il y a la possibilité d'intégrer les meubles, donc le mobilier, dans le calcul de l'investissement du bien. Et si on regarde maintenant le temps moyen de vacances locatives, on constate finalement qu'il est parfois beaucoup plus faible que la location classique nue. C'est un élément important. Alors, s'il y a effectivement beaucoup de propositions de logements de location en meublé, c'est aussi souvent parce qu'il y a beaucoup de demandes. Les deux sont liés. Alors, et pas seulement de la part des étudiants, on peut aisément imaginer que dans ce contexte actuel, ça pousse certains Français à vouloir s'installer vite ailleurs, soit à cause d'un changement familial ou d'un changement professionnel. Alors, l'activité de recherche immobilière, de location meublée, suit la courbe de la saisonnalité de la location classique. Mais on va remarquer quelque chose d'assez spécial, notamment pendant ce mois d'été, c'est que cet été, le critère meublé, puisqu'on a ça dans les éléments de recherche, a été utilisé 73% par 73% d'utilisateurs de plus qu'en temps normal. C'est un critère qui a été vraiment choisi. En juillet-août, on a même observé 20% de consultations supplémentaires par annonce de biens meublés et surtout 30% de contacts de plus générés auprès des professionnels. Donc vous voyez l'escalade, on sent vraiment une appétence supplémentaire à ce type de biens. Alors qu'est-ce que recherchent les internautes sur ces annonces de meublés? Tout simplement déjà la surface. Donc on constate qu'une annonce sur deux en meublé est un studio. Les appartements de 2 pièces représentent un tiers de l'offre. Le deuxième élément qu'ils vont regarder, c'est la localisation, bien évidemment. Un tiers des localités recherchées en location meublée concernent finalement le top 5. Donc on a Marseille, Lyon, Montpellier, Toulouse et bien sûr Paris. Et enfin, ce qu'ils regardent également beaucoup, ce sont les photos. Vous me voyez souvent et vous m'entendez souvent dire que les photos, c'est un élément important pour l'ensemble des biens en location aussi bien en transaction. Pour la location meublée, c'est bien évidemment tout particulier puisque on va pas seulement cette fois-ci chercher un bien à louer, mais on va chercher un aménagement. Le bien est effectivement aménagé. La loi explique que chaque pièce doit avoir un mobilier destiné à lié à sa destination. Donc une chambre, il y a un lit, la salle à manger, il y a une table avec des chaises, la cuisine, un frigo, des plaques. Bref, la photo va permettre de définir l'aménagement et finalement de pouvoir se projeter beaucoup plus facilement dans ce futur bien à louer. Donc en conclusion, oui. Je peux vous le dire. L'offre de location meublée revient en grâce du fait d'une situation de marché un petit peu particulière. Elle représente 15% de l'offre de location, en tout cas sur Bien ici. Et elle offre, on l'a vu, beaucoup d'avantages pour le bailleur et pour le locataire, surtout lorsqu'il souhaite une installation rapide ou même temporaire.
Merci David. On va vous retrouver tout à l'heure pour votre focus mensuel. Merci à vous.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, Focus Marché de l'Immo par David Benbassa.
Et oui, les amis, pour cette 3e saison, 22e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, on a un focus immobilier. Et c'est vous qui le faites, David. Vous posez chaque mois à un professionnel une question qui éclaire nos amis.
Absolument. Et ce mois-ci, donc on a parlé de location, location meublée. Moi, je souhaitais aujourd'hui qu'on mette en lumière un expert du secteur. Donc, c'est quelqu'un qui appartient au groupe Citia Immobilier. Plus besoin de le présenter. Par contre, moi, la personne que je souhaitais vous présenter, c'est Kevin De Castro, qui est l'animateur métier location pour Citia Immobilier. Il gère pour la France aujourd'hui plus de 400 négociateurs location. Donc, je pense qu'il sait de quoi il parle. Donc, ça me paraissait intéressant de lui poser une question. Bonjour, Kevin.
Bonjour David.
Alors Kevin, ma première question, elle va être toute simple, c'est finalement comment se porte le marché de la location en cette rentrée 2020?
Alors le marché se porte très 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 bien. C'est vrai qu'on a vécu une année un peu particulière et depuis le retour après le confinement, en 3-4 mois d'activité, eh ben, on a complètement rattrapé notre retard. Chez nous en fait, les négociateurs étaient complètement à l'arrêt pendant ce confinement. Et dès le retour, on a senti un vrai boom de l'activité et depuis, ça ne s'arrête pas, clairement.
Ouais, l'activité continue même en cette rentrée de septembre et là, début octobre, ça continue.
Alors, on fait de très beaux mois encore une fois. Alors, c'est un peu plus compliqué sur cette rentrée. Pourquoi? Parce que, en fait, on est un peu victime de notre succès, quoi. On a quasiment plus de stock à louer. Et là, ça, c'est compliqué.
Et est-ce que c'est partout dans toutes les villes où certaines arrivent à tirer leur épingle du jeu?
Alors, c'est clairement un sujet national. Maintenant, si on met à part les grandes métropoles, Paris, etc., comme on les connaît, il y a des villes qui ont vraiment une saison particulière. Angers, par exemple. Angers, c'était vraiment une saison incroyable. On avait 300-400 appels par jour. Ça a complètement fait saturer notre réseau téléphonique de l'agence. Et on payait des collaborateurs pour dire, voilà, on n'a plus rien à louer. Mais on était obligé de le faire pour nos clients, parce que sinon ils ne comprendraient pas. Donc c'est très 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 particulier.
Bien sûr, ça il en va aussi de votre réputation auprès des clients de répondre à l'ensemble des demandeurs. Dernier point, une dernière question, est-ce que tout ça finalement, ça fait augmenter le loyer?
Clairement oui, on est sur le sujet de l'offre et la demande, hein. De toute façon faut pas se le cacher. Donc oui, ça fait augmenter les loyers. Alors, il faut savoir que dans les zones tendues, avec des loyers qui sont plafonnés, forcément c'est plus compliqué. Donc là, les loyers, ces villes-là tirent leur épingle du jeu. Maintenant, sur tout le reste du territoire, clairement on a des augmentations de prix. Même sur des villes où à l'époque le secteur de locatif était un peu plus compliqué, comme par exemple Saint-Étienne. Saint-Étienne, aujourd'hui, on commence à avoir une pénurie de petites surfaces et des loyers qui ont augmenté de 5, 6, voire 7%, même à Saint-Étienne, quoi.
Ok, merci beaucoup, Kevin, pour cet éclairage très intéressant.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Kevin De Castro. Je rappelle que vous êtes gestionnaire de biens chez Citia. Vous occupez d'une grande équipe.
Animateur métier location.
Pour l'ensemble du territoire. Voilà, vous gérez, je crois, 400 gestionnaires sur l'ensemble du réseau. Merci, David. On vous retrouve le mois prochain. Et comme tous les mois, bien évidemment, on retrouvera votre édito, votre focus. Merci, David Benbassa. Restez connectés. On se retrouve tout de suite après ça.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour toujours la séquence que vous aimez particulièrement. Ça vous concerne, deuxième partie, avec toujours l'ami Vincent. Un expert nous a rejoint.
Ouais, un nouvel expert, Sylvain. Il s'agit de Michael Benchaba. Bonjour.
Bonjour, Vincent.
Bienvenue. Merci. Dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Vous êtes fondateur du réseau meilleurbien.com. Et c'est une première pour vous. Première question de Michel de Vannes, en Bretagne. Elle vend son appartement seule, sans agence. Elle a reçu plusieurs offres d'acheteurs, dont une au-dessus du prix de vente affiché. Michel se demande si elle est en droit de vendre au plus offrant aujourd'hui.
Alors écoutez, Michel pourra vendre au plus offrant dans la mesure où elle n'a pas déjà accepté une offre. Mais effectivement, étant donné qu'elle ne passe pas par une agence, qu'il n'y a pas de mandat, elle n'est pas soumise à cette obligation d'accepter une offre au prix affiché. En revanche, je tiens vraiment à le préciser, si elle a déjà accepté une offre de façon manuscrite, elle ne pourra pas faire monter les enchères. Exactement.
Sinon quoi ?
Sinon, elle peut avoir des ennuis, et en fait, l'acheteur peut la forcer à vendre au prix auquel elle s'était engagée. Exactement.
À partir du moment où il y a l'engagement sur un prix, que ce soit par exemple, même par texto, par exemple par SMS, j'accepte l'offre.
Oui, c'est un commencement de preuve.
Toute forme manuscrite.
Absolument.
Pourrait obliger la personne qui finalement serait lésée dans l'affaire à interjeter pour pouvoir obtenir sa satisfaction.
Absolument, absolument. Okay. Il peut demander à.
Ça arrive.
Ça arrive parfois où les particuliers dans certaines régions peuvent être amenés à avoir des surenchères sur leurs biens. Et évidemment, le côté un peu pécunier peut les inciter à accepter. Mais malheureusement, si on s'est engagé et qu'on a accepté une offre de façon écrite...
Pour bien récapituler pour nos auditeurs, si vous avez accepté une offre par écrit, vous ne pouvez plus revenir en arrière.
Exactement.
Par contre, si c'est dans le domaine du verbal, etc., là, à ce moment-là, c'est la liberté.
Absolument.
D'accord.
C'est exactement ça, Sylvain.
On continue avec une question de Florian du groupe Facebook Le Club des Proprios. Un des locataires de Florian lui signale des rongeurs dans le logement. D'après le locataire, c'est à Florian de s'en débarrasser.
Des rongeurs, des souris, des rats.
Écoutez, c'est pas précisé là. D'après le locataire, donc c'est à Florian de s'en débarrasser. Est-ce bien la responsabilité du propriétaire, du bailleur?
Alors, la loi nous dit la chose suivante, c'est que le propriétaire est tenu de louer un logement décent dans lequel les conditions d'hygiène ne laissent pas apparaître des risques pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Et donc, là, évidemment, ça sera à Florian de régler ce problème de rongeur. Pareil, pour tout ce qui est termites, xylophages, il est tenu, en fait, de louer un logement décent sans ces différents inconvénients notables, quand même.
Ça me fait penser à un sujet qui est toujours d'actualité, c'est les punaises de lit. C'est la même chose ou
c'est pareil, ça sera pareil, dans la mesure où le propriétaire a l'engagement de vous louer un logement sans tout ce qui est xylophage et autres.
Toute
et
forme autre de rongeur. Nuisance qui altérerait le contrat de location pourrait être opposable au propriétaire.
Absolument, d'accord. Absolument.
Et si le propriétaire peut prouver que les nuisances viennent ou ont été dans la longueur du bail faites par le locataire, est-ce qu'il là-dessus il peut y avoir une bascule, par exemple?
Alors évidemment, s'il arrive à prouver que
il y a un défaut d'entretien, par exemple,
je crois que c'est l'entretien, c'est le défaut d'entretien.
S'il arrive à prouver qu'il y a un défaut d'entretien et que c'est dû au locataire, oui, à ce moment-là, ce sera au locataire de prendre en charge ces réparations. Mais dans l'ensemble, le propriétaire, encore une fois, est tenu de louer un logement dans un logement décent.
Merci beaucoup, Michael.
Merci à vous pour l'invitation.
Vous êtes fondateur du réseau immobilier meilleurbien.com. Vous voulez à votre tour poser des questions à nos experts. Rendez-vous sur le club des proprios, le groupe Facebook géré par Capital. À tout à l'heure.
Merci, Vincent. Et tout à l'heure, on va entamer notre troisième séquence. Ça vous concerne avec notre expert notaire. Dans un instant, nous allons aborder la deuxième partie de notre entretien avec la ministre du Logement, chargée du Logement, Emmanuelle Wargon, qui est notre invitée ce mois-ci. Je vous dis à tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie.
C'est bien ici.
Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail.
C'est bien ici.
Et il adore nager.
C'est bien ici.
C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
Et c'est bien ici.
Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
Trouble in your brain, anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble bus. If you need a hero, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you, connect it all. Every day is a miracle.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
Vous êtes toujours avec nous dans le grand rendez-vous de l'immobilier, 22e numéro, avec Emmanuel Wargon, ministre chargé du logement, et vous êtes notre invité. Merci d'être avec nous. Nous allons désormais parler, Guillaume, rénovation énergétique, n'est-ce pas ?
Oui, Sylvain, nous allons dans quelques minutes interroger Emmanuel Wargon, excusez-moi, sur les nouvelles aides, notamment l'élargissement de MaPrimeRénov. Mais avant ça, je vous propose un tout petit retour sur cette prime lancée en début d'année. On a été voir l'Agence nationale de l'habitat qui nous fait le point sur cette prime, l'Agence nationale de l'habitat qui est chargée de la distribuer.
Alors depuis le début de l'année 2020, MaPrimeRénov remplace le CITE, le Crédit d'impôt transition écologique. MaPrimeRénov donne de bons résultats puisque 100 000 dossiers ont été déposés, 70 000 ont déjà fait l'objet d'une décision de l'Agence nationale de l'habitat. Alors, MaPrimeRénov permet de réaliser plusieurs types de travaux de rénovation énergétique pour son logement, ventilation, chauffage et isolation de l'habitat. Nous avons constaté que les personnes ont soit défini déjà leur projet, soit ont besoin de définir en fait leur projet de travaux. Et donc nous les invitons à se connecter sur le site faire.gouv.fr qui a été élaboré, construit par l'État pour cela. Ils vont y trouver un simulateur d'aide et un certain nombre de conseils et être orientés vers un conseiller faire qui pourra ainsi les accompagner dans la démarche de définition de leur projet de rénovation. Alors, lorsque la personne, à l'issue de la consultation du site faire.gouv.fr, a défini son projet, a été accompagnée, à ce moment-là, elle est invitée à se connecter directement sur le site maprimerénov.gouv.fr, site sur lequel elle va pouvoir engager la démarche qui le conduira à bénéficier de l'aide qu'elle sollicite. Lorsque vous connectez sur le site MaPrimeRénov, vous avez votre devis, vous avez défini votre projet, et la première étape, c'est de créer un compte. Et donc, pour créer ce compte, vous renseignez un certain nombre d'informations sur votre ménage, sur vous-même, sur votre situation fiscale. Et ensuite, vous déposez une demande et une demande d'aide dans laquelle vous mettez votre devis. Vous mettez également les autres aides que vous êtes susceptible de percevoir, notamment les certificats d'économie d'énergie. Et à ce moment-là, vous recevez une décision de l'agence qui indique le montant de l'aide que vous allez pouvoir toucher et le reste à charge pour vous. Et la démarche est ainsi engagée pour ensuite réaliser les travaux.
Guillaume.
On vient de l'entendre, MaPrimeRénov semble commencer effectivement à trouver son public. Alors, vous venez d'annoncer le renforcement encore de ce dispositif. Concrètement, donc vraiment dans les grandes lignes, qu'est-ce qui change avec MaPrimeRénov? On va l'appeler MaPrimeRénov 2, là, saison 2.
Non, on ne va pas l'appeler MaPrimeRénov 2 parce qu'on ne va pas compliquer. On a lancé MaPrimeRénov au 1er janvier 2020 et ça concernait en gros la moitié des Français. L'autre moitié était encore éligible au crédit d'impôt. À partir du 1er janvier 2021, tous les Français basculent dans MaPrimeRénov. Donc c'est la seule aide publique nationale pour soutenir la rénovation. C'est simple. Il y a un barème par catégorie de revenus. Il y a 4 catégories de revenus. Donc quand vous rentrez, vous définissez votre profil et donc ça va vous dire que vous êtes bleu ou jaune ou rose ou violet. Et ça n'est pas une question de garçon ou de fille. Et ça va vous dire que du coup, si vous êtes dans le profil bleu, voilà les aides auxquelles vous aurez droit en fonction des travaux que vous faites. Et donc c'est la même chose qu'au 1er janvier 2020, élargi à tous les Français avec beaucoup de belles nouveautés. La première, c'est qu'on ouvre aux propriétaires bailleurs. Ça n'était pas le cas auparavant, y compris pas dans le CITE. Et c'est très important parce que, évidemment, c'est là que c'est le plus difficile d'inciter à faire des travaux, puisque vous êtes propriétaire avec un locataire, c'est vous qui payez les travaux et c'est le locataire qui fait des économies sur sa facture.
Et sans contrepartie. Hein,
donc, donc c'est important que ce soit ouvert. Et on ouvre aux copropriétés avec une aide à la copropriété. Parce qu'aujourd'hui, une copropriété 27 lots égale 27 dossiers de demande d'aide. Demain, une copropriété, un dossier fait par le syndic et l'aide se déduit du montant des travaux et du coup, c'est le montant moins l'aide qui est appelé auprès de chaque copropriétaire.
On rentrera dans le détail de tout ça tout à l'heure.
Mais c'est nouveau.
Et d'ailleurs, mon cher Guillaume, j'ai vu que vous avez fait une allusion. On est bien d'accord que l'annonce qui a été faite par Bruno Le Maire ne sera pas prise en compte. La contrepartie de baisser les loyers, par exemple.
En fait, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que du point de vue du locataire, ça serait une baisse de la charge totale, puisque loyer inchangé et baisse de la partie facture future énergétique.
Voilà, je ne pouvais pas m'en empêcher.
Il voulait vraiment la paix.
Alors justement, j'aimerais qu'on essaie d'y voir plus clair. Guillaume, est-ce qu'on peut donner des exemples
Je n'ai pas d'exemple. Non, mais
des exemples précis. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on donne des cadres précis dans la procédure. Comment on fait très concrètement pour ceux qui nous écoutent
Exemple précis, si vous prenez, une famille avec deux enfants qui habitent soit dans la Creuse, soit dans le Morbihan, en tout cas pas en région parisienne. Si cette famille veut simplement changer sa chaudière, par exemple une chaudière au fioul pour passer vers une chaudière soit pompe à chaleur, soit granulée, comme ce sont des chaudières assez chères, le coût du changement de la chaudière sera peut-être en brut autour de 15 000 euros et l'aide sera entre 10, 12, 13 000 en fonction de la chaudière choisie. Si vous êtes une famille avec des revenus plutôt modestes, l'aide va aller jusqu'à 90% de l'opération. Donc c'est hyper significatif. Si vous êtes un ménage plus aisé et que vous vous lancez dans une rénovation globale, ça fait partie des innovations, c'est-à-dire on regarde le logement, on fait un audit énergétique au début. On dit, si on veut économiser 50% d'énergie, voilà ce qu'il faut faire, un peu d'isolation, un peu de changement de chauffage ou autre. Ensuite, vous faites les travaux. Là, pour un ménage aisé, sur une opération qui sera peut-être à 35 000 euros, parce que forcément c'est plus cher, vous faites une rénovation globale, l'aide sera peut-être autour d'entre 10, 12, 13 000. Donc vous serez à peu près un tiers du devis aidé. Donc il faut juste à retenir, les ménages les plus modestes peuvent être aidés jusqu'à 90% sur une opération, les ménages les plus riches plutôt autour de 35 à 40% maximum. Et ça s'applique à tous les modes de chauffage, à tous les types de travaux. Et l'aide dépend de ce que vous faites en fait.
Je rebondis juste sur les ménages aisés, vous l'avez dit, donc 100% des Français, ils en font partie. Et la grande nouveauté, c'est qu'ils sont vraiment aidés s'ils font des rénovations globales. J'entends, si on se replonge un petit peu en arrière, ces ménages aisés, qui sont nouvellement bénéficiaires de la prime, ils ne sont pas forcément tous gagnants par rapport à l'ancien système qui prévalait, c'est-à-dire le CITE, qui a valu pendant des années 30%, j'ai un crédit d'impôt qui est égal à 30% de mon équipement. J'avais fait une petite simulation avec un fournisseur d'énergie qui me disait qu'un ménage de 4 personnes, par exemple, qui gagne 70 000 euros de RFR, revenu fiscal de référence, en province, il est éligible, lui, à la prime Rénov' que pour des travaux d'isolation, on est d'accord, celui-là.
Isolation ou rénovation globale.
Voilà, mais pas pour d'autres tâches. Et encore, s'il fait ses travaux d'isolation, par exemple, il aménage ses rénovations, il isole ses murs à 100 mètres carrés de façade, la prime plus le CE, ça lui donne droit aujourd'hui à 4 100 euros d'aide, contre 6 300 euros qu'il pouvait avoir avec les CE et le crédit d'impôt antérieur. Donc, on voit qu'il y a une baisse d'aide pour ce ménage qui est plutôt aisé. Vous assumez donc ce choix?
J'assume
clairement.
Totalement ce choix. On est passé d'une situation dans laquelle on avait un petit peu de certificat d'économie d'énergie, mais finalement assez peu ciblé sur la rénovation. On consommait environ 500 millions d'euros de certificats d'économie d'énergie par an. Et l'aide principale, qui était une aide fiscale, à 30% des travaux, quels que soient les travaux faits. Environ les 20% des ménages les plus aisés captaient environ la moitié de l'aide fiscale, captaient, bénéficiaient.
Oui.
Et c'est normal que chacun utilise les dispositifs qui sont à sa disposition. Mais parce que c'était du fiscal, le réflexe, c'était plutôt les gens qui étaient imposables, qui avaient l'habitude de manipuler des dispositifs fiscaux. Donc je ne trouve pas qu'on était à l'optimum dans cette situation-là. Aujourd'hui, on a plus de 2 milliards d'euros de certificats d'économie d'énergie. Donc ça se diffuse beaucoup plus, d'ailleurs y compris auprès des ménages aisés qui avant avaient assez peu recours au certificat d'économie d'énergie. On a remis à peu près le même montant sur l'aide directe que ce qu'on avait sous forme de CITE. Donc il y a à peu près le même montant budgétaire sur ma prime Rénov' que ce qu'il y avait sur le CITE. Simplement, ça bénéficiera plus en valeur et donc en volume aux ménages les moins aisés. Et je trouve qu'on a atteint le bon point d'équilibre. Donc oui, c'est vrai que vous trouverez des ménages aisés qui étaient aidés dans le CITE et qui ne le seront plus aujourd'hui. Mais pour les gros travaux, ceux qui sont les plus lourds et ceux sur lesquels l'aide est le plus le facteur déclencheur, l'isolation par l'extérieur et la rénovation globale, les ménages aisés sont de nouveau aidés. Et je pense que c'est un signal très important. Et encore une fois, ils sont souvent bailleurs eux aussi.
Tu vois.
Alors, ça a le mérite d'être très clair et je souscris tout à fait. Parce que ceux qui sont le plus concernés par la précarité énergétique, c'est justement les personnes qui ont de faibles moyens. Et vous avez recentré et rétabli un équilibre que je partage complètement. D'ailleurs, Radio Immo soutient tout à fait cette chose. Et merci d'assumer cette position. On a le droit aussi de donner.
Mais merci
son
beaucoup.
Opinion.
Et pour moi, c'est aussi une dimension de justice sociale qui est importante.
Le rétablissement d'une vraie équité, puisque effectivement, la précarité énergétique, c'est pas les ménages les plus aisés qui en sont les victimes. C'est souvent les personnes qui n'ont pas les moyens de rénover.
Exactement.
On parle de copropriétés qui sont parfois extrêmement précaires. Alors, malgré effectivement de très bons chiffres de démarrage de la prime, les Français sont-ils bien au courant des aides qui leur sont proposées, notamment à la rénovation?
Et grâce à vous, ça va s'améliorer.
Comme
on a fait un tout petit micro-trottoir, vous allez voir.
Comme tous les médias. Merci, en tout cas. Mais comme tous les médias, on s'est permis, Guillaume, de faire un micro-trottoir. Alors, je vous propose qu'on écoute les Français. On leur a posé la question, justement.
En toute humilité.
Oui, je suis au courant que les aides à la rénovation énergétique existent. Ma mère en a bénéficié dans le Roussillon. Ça s'est très bien passé. Elle n'a eu qu'un euro en reste à charge. Donc, pour moi, c'était une affaire remarquable.
Ouais, j'ai bien entendu parler des aides à la rénovation énergétique, dans le cadre notamment de la lutte contre le climat. Mais c'est vrai que dans le détail, je ne le maîtrise pas, on ne sait pas à qui à s'adresser, donc ça mériterait effectivement plus de lisibilité, plus de clarification pour que les gens puissent se saisir de ce sujet qui est un sujet important.
Oui, je sais que les aides aux travaux existent, il y a plein d'aides qui existent. Après, je pense que tout dépend de sa situation financière, quoi. Mais oui, les aides, elles existent. Elles existent et je pense que le problème, c'est que les gens... Ils n'osent pas demander parce qu'ils pensent toujours qu'ils ont droit à rien. Mais je sais que oui, ça existe, que ce soit pour la rénovation énergétique, pour améliorer son habitat, payer ses charges. Oui, je sais que ça existe. Après, quels critères il faut remplir pour pouvoir bénéficier? Sincèrement, je ne sais pas. Mais je sais que voilà, ça existe.
Moi, je trouve ce micro-trottoir plutôt encourageant. Parce que les trois personnes interrogées disent qu'ils savent que ça existe, plus ou moins précisément. Une des trois dit que ça a marché concrètement pour sa mère, ce qui est encourageant. Et après, MaPrimeRénov', on l'a créé au 1er janvier dernier, donc c'est en fait extrêmement récent. Et on n'a pas besoin, avant de s'être posé la question des travaux qu'on a envie de faire, de connaître les barèmes précisément. Je crois que le message important, c'est il existe une aide, elle s'appelle MaPrimeRénov'. Tout le monde peut en bénéficier et après il faut aller se renseigner quand on commence à avoir un projet et donc savoir où se renseigner. Donc je le redis, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le site fer.gouv.fr, qui est le site général d'information et d'appui pour la rénovation énergétique, et pour MaPrimeRénov' elle-même, maprimerenov.gouv.fr. J'insiste sur le .gouv. C'est une bonne manière de différencier les sites gouvernementaux sites qui sont des faux ou des sites commerciaux. Seul le gouvernement peut utiliser du .gouv.fr et le site FER est passé en .gouv justement pour clarifier que c'est bien un site gouvernemental.
C'est une information.
Guillaume.
Juste deux dernières questions. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, la rénovation globale, mais je voudrais, parce que c'est quand même une nouveauté de cette nouvelle prime, l'évolution de cette prime. Qu'est-ce que c'est qu'une rénovation globale? C'est un bouquet de travaux précis ou c'est une économie d'énergie à réaliser? Est-ce qu'on peut éclairer les gens là-dessus? Et puis vraiment un exemple de prise en charge.
Alors, une rénovation globale, c'est le fait de faire passer un appartement ou une maison, mettons une maison pour simplifier, d'une étiquette énergétique pas terrible, genre F ou G, ça c'est le seuil des passoires, à une meilleure étiquette énergétique, c'est-à-dire un logement qui consomme peu d'énergie, voire qui est en basse consommation pour les étiquettes les meilleures A ou B. Donc c'est l'atteinte d'un résultat, c'est vous partez d'une situation et vous arrivez à une meilleure situation. Pour faire ça, il faut faire un audit. Donc c'est nécessaire au début des travaux pour voir où en est le logement. Et l'audit vous donne à la fois votre consommation, donc l'état du problème, et vous dit, pour gagner 50% d'efficacité énergétique, voilà le type de travaux que vous devez faire. Et donc c'est différent dans chaque maison. Des fois ça va être le
Parce
toit.
Parce qu'il faut
des
gagner 50%. Hein.
Oui, il faut gagner 50%. Une fois que vous avez votre liste de travaux à faire, là vous pouvez demander MaPrimeRénov'. vous faites un aller-retour sur le site, on vous dit bah voilà, vous êtes éligible, vous allez avoir droit à tant. Donc c'est pareil, si vous êtes un ménage parmi les plus aisés, ce sera 30 à 40% de la dépense. Si vous êtes un ménage parmi les plus modestes, ça pourra être couvert, y compris sur des programmes très lourds, jusqu'à 90%. Et puis vous faites les travaux, donc l'entreprise passe, il faut que l'entreprise soit qualifiée RGE, comme pour toutes les aides. Elle vous fait le bouquet de travaux. Et une fois que les travaux sont faits, vous envoyez les factures acquittées en disant « ben voilà, les travaux sont faits » et la prime vous est versée. Et il n'y a pas besoin de refaire un audit parce qu'on considère qu'à partir du moment où l'audit a été fait au début et que vous appliquez le plan de travaux prévu, dans ce cas-là, ça amène votre maison ou votre appartement au bon niveau de consommation et l'entreprise est engagée, sa responsabilité professionnelle est engagée avec sa certification. Donc c'est simplement qu'au lieu de dire « Je demande une aide pour changer ma chaudière ou isoler ou ventiler. Je dis, je demande une aide pour passer ma maison d'un état pas terrible à une performance meilleure. Mais après, in fine, ça reste un programme de travaux.
Très bien. Alors justement, on va parler des copropriétés, un peu moins de 9 millions de copropriétés, dont alors ça dépend des instruments de mesure, les syndicats qui communiquent, qui disent que 15-20% des copropriétés seraient en difficulté, c'est-à-dire seront en état de précarité énergétique. L'ancien dispositif était un peu complexe pour les copropriétés.
Ben, il n'était pas fait pour les copropriétés.
Il n'était pas fait pour la propriété. Justement, j'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce qui va s'améliorer dans la lisibilité. Je veux aussi rajouter que d'enfer.gouv.fr, c'est aussi un site de tiers de confiance qui permet aussi d'expliquer la signification du RGE qualifié et certifié. Je pense que c'est extrêmement important pour nos auditeurs.
Alors, sur les copropriétés, on a en France à peu près 17% des logements qui sont des passoires thermiques. Et c'est vrai pour les maisons individuelles et c'est vrai pour le logement collectif. Donc c'est énorme, oui, c'est 1/6 quasiment, enfin même un peu plus. Donc c'est vrai aussi des copropriétés. Les bailleurs sociaux, et je voudrais souligner les efforts qui ont été faits, ont beaucoup travaillé sur ces sujets pendant les 10-15 dernières années. Et du coup, il y a moins de passoires dans le parc HLM logement social que dans le parc privé, parce que les bailleurs, en tant que propriétaires, ont rénové. Il en reste, mais on est à 11% chez les bailleurs sociaux, et donc on est plus dans le parc privé. Quand vous êtes dans une copropriété, il faut que les travaux soient votés. Et une fois que les travaux sont votés, ben, jusqu'à présent, il fallait que chaque copropriétaire fasse son propre dossier d'aide. Et donc, si vous prenez deux studios à deux étages différents, mais il y en a un, c'est un propriétaire occupant avec des revenus comme ci, comme ça. L'autre, c'est un bailleur. Et donc, ça va pas être les mêmes aides, voire pas d'aide du tout, alors que c'est le même studio à deux étages de différence. Là, on change. On dit, c'est la copropriété qui est aidée. Donc, la copropriété décide que c'est le moment de faire des travaux. Le syndic fait faire des devis. Mettons que ça coûte 1 million pour rénover la copropriété. Façade, isolation, changement de chaudière si c'est du chauffage collectif. Ouais. Et ben là, sur cette copropriété, c'est la copropriété, donc le syndic au nom de la copropriété qui va faire le dossier auprès de l'ANA. Et l'ANA va dire, bah oui, tout à fait, la copropriété est éligible comme toutes les copropriétés de France. Vos travaux, c'est très bien, parfait. On va vous financer à hauteur, mettons, de 400 000 euros. Et donc, au lieu d'appeler 1 million auprès de chaque copropriétaire réparti dans les tantièmes que tout le monde connaît quand on est en copropriété, le syndic appellera 1 million moins les 400 000, donc il n'appellera plus que 600 000. Donc il n'y aura pas d'avance de frais et surtout, il n'y aura pas besoin de refaire des calculs différents. Et là, pour le coup, il n'y a plus du tout de conditions de ressources chez les copropriétaires ou de profils. C'est la copropriété.
Oui, c'est la copropriété.
L'immeuble qui est aidé.
Vous êtes d'accord, Emmanuel Wargon, qu'on est sur un enjeu global qui est vital pour les villes.
Pardon, on est sur un enjeu qui, d'habitude, je disais triple, mais en fait, il est quadruple. Bon, d'abord, c'est sur la planète, puisque les émissions de CO2 issues des bâtiments, c'est la deuxième cause d'émissions de CO2 en France, juste derrière les transports. Donc, si on veut atteindre notre trajectoire de lutte contre le réchauffement climatique, il faut absolument qu'on attaque le bâti existant. Donc, c'est une priorité absolue si on est sérieux sur la transition écologique. Deuxièmement, c'est de la baisse de facture une fois qu'on a fait les travaux. Donc ça s'amortit et au quotidien, après, vous avez des factures qui sont beaucoup plus basses.
Et ça peut même augmenter la valeur de l'actif en question.
Voilà. Alors, troisièmement, ça augmente le confort, parce qu'au-delà de la baisse de facture, vous ne vivez pas de la même manière quand vous êtes de nouveau correctement chauffé et rafraîchi en été, et ça augmente la valeur du bien. Et enfin, et c'est la raison pour laquelle c'est aussi présent dans le plan de relance, ça soutient l'emploi. C'est de l'emploi non délocalisable, ce sont nos artisans, nos entreprises du bâtiment, et donc c'est un soutien important à une activité dont on a absolument besoin.
C'est un signal extrêmement intéressant à entendre pour la profession, la rénovation du bâti, ça reste et ça demeure toujours le chantier du siècle, hein, si on peut dire les choses
exactement
comme ça. Merci beaucoup Emmanuel Wargon, ministre délégué au logement, d'avoir répondu positivement à toutes nos questions et à l'invitation qu'on vous a faite. On espère vous revoir bien sûr sur le plateau de Radio Immo pour justement parler haut et clair et envoyer les signaux à nos auditeurs. Merci et Guillaume, on se retrouve tout de suite dans la prochaine séquence.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, droit dans l'immo, avec Stéphane Moquet.
Bonjour à toutes et à tous, merci, vous êtes toujours avec nous pour ce 22e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, 3e saison, et c'est votre séquence préférée, c'est Droit dans l'Immo avec Stéphane Moquet qui, une fois n'est pas coutume, est avec nous en duplex au téléphone. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
J'espère que vous allez bien Stéphane. Alors Stéphane, première question, vous êtes directeur général du premier réseau de transactions immobilières français, réseau immobilier français. Le fait aujourd'hui d'avoir ce vaste plan de rénovation énergétique présenté par le gouvernement avec un plan de relance. Première question, est-ce que c'est favorable pour les agents immobiliers et quels effets peut avoir la rénovation énergétique sur les actifs des ménages, les biens, les maisons, les appartements?
Alors d'abord, c'est surtout favorable, j'allais dire, d'abord et surtout pour les propriétaires des biens, parce que la rénovation énergétique, c'est un sujet que portent plusieurs gouvernements. Ça reste quand même un parcours assez complexe avec des aides multiples. Et c'est vrai qu'on voyait bien qu'on avait du mal, nous, agents immobiliers, à engager des acquéreurs sur des projets de rénovation. Donc, moi, j'ai vu, évidemment, le plan proposé par la ministre du Logement, Emmanuel Wargon, que vous avez sur le plateau. Et il y a d'abord une ouverture, effectivement, à beaucoup plus de foyers pour bénéficier des aides. Donc, ça, je crois que c'est vraiment un point important. Et le deuxième, c'est qu'on l'ouvre aux copropriétés et aux propriétaires bailleurs. Et ça rejoint la deuxième question que vous me posez, c'est que je pense que dans quelques années, je suis pas un devin pour dire si c'est dans 5 ou 10 ans, la valeur énergétique du bien sera un des critères de prix. Engager aujourd'hui une rénovation énergétique pour réduire évidemment la consommation d'énergie, c'est à la fois avoir un comportement citoyen, mais c'est aussi faire en sorte que son patrimoine ne se dévalue pas dans le temps, parce que ce sera un élément demain clivant entre deux biens, j'en suis à peu près persuadé.
Donc pour vous, finalement, ces bonus sur des deux côtés, le client, lui, effectivement, par rapport à son DPE, peut espérer une augmentation de la valeur, et en même temps, il y a un facteur environnemental qui est intéressant de ce point de vue-là. J'ai une question complémentaire. Est-ce que le fait que, effectivement, MaPrimeRénov permette aux propriétaires bailleurs, aux propriétaires occupants de rénover leur bien, est-ce que l'agent immobilier peut être un facteur, un prescripteur, justement, des travaux à mener?
Alors, nous, chez Orpi, on s'est engagé déjà depuis longtemps dans ce qu'on appelle un Green Deal. Nous avions signé à l'époque de la ministre Duflo un projet d'engager notre réseau pour sensibiliser les acquéreurs et les vendeurs sur la rénovation de leurs biens. On voit qu'en transaction, c'est-à-dire sur les biens à vendre pour acheter une résidence principale, c'est un sujet qui est plus complexe à aborder. En revanche, sur nos propriétaires bailleurs, eux sont très sensibles à la valeur du patrimoine. Ils peuvent avoir une sensibilité ou pas sur, on va dire, l'engagement sociétal, faire en sorte de réduire la consommation d'énergie. Mais surtout, eux, ce qu'ils pensent, c'est comment je fais en sorte que le bien dans lequel j'ai investi, qui va peut-être me servir pour la retraite, ne se dévalue pas au fil du temps. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va mettre l'ascendant l'année prochaine, puisqu'on va sensibiliser tous nos agents immobiliers qui pratiquent la gestion locative à organiser des réunions d'information avec leurs propriétaires bailleurs pour pousser les dispositifs que le gouvernement a mis en place. J'espère que c'est plus simple qu'auparavant, parce que au-delà des aides et des montants, ce qu'il faut vraiment, c'est le choc de la simplification. C'était extrêmement complexe. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a dans les mains des dispositifs qui peuvent être beaucoup plus simples et qui vont nous permettre, nous, de sensibiliser nos propriétaires bailleurs beaucoup plus facilement.
Merci beaucoup Stéphane Moquet. Je rappelle que vous êtes directeur général du réseau Orpi France. On vous retrouve Stéphane le mois prochain, j'espère en studio ou de toute façon en duplex. Merci Stéphane.
Merci Sylvain.
On enchaîne tout de suite avec notre prochaine séquence.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le conseil IMO de l'UFC Que Choisir.
Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans votre 22e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, 3e saison. Et oui, merci pour votre fidélité. Voilà, pour cette saison, chaque mois, Guillaume, c'est l'UFC Que Choisir qui, grâce à ses alertes, à ses antennes locales, nous met en garde, vous met en garde contre les litiges, les dérives qui peuvent apparaître dans le secteur de l'immobilier. C'est bien sûr la séquence du Conseil IMO, Guillaume.
Oui, et ce mois-ci, Sylvain, nous accueillons Raphaël Bartholomé, chef du service juridique de l'UFC Que Choisir. Bonjour, Raphaël.
Bonjour.
Vous nous mettez en garde ce mois-ci contre les artisans qui usurpent le fameux label RGE, alors reconnu garant de l'environnement. C'est un label obligatoire pour entreprendre les travaux de rénovation énergétique chez les particuliers.
Absolument, absolument, parce qu'un projet de rénovation énergétique bien réalisé doit permettre de faire des économies et de réduire l'impact environnemental de son logement. Du coup, il est souvent demandé par quel bout prendre une rénovation et notamment choisir l'entreprise pour la réaliser. Alors, la raison est simple, il ne faut pas partir sur un seul entrepreneur, plusieurs entreprises, parce que les prix sont libres. Les prix sont libres et du coup, il est utile de demander plusieurs devis à plusieurs entreprises portant sur des travaux identiques pour pouvoir bien comparer les différentes offres. Alors, il y a une pratique assez commune hein, qui est de gonfler les prix de certains équipements au gré des aides publiques et en ayant différentes offres, on permettra...
De réduire. Mais comment s'assurer de la qualité des personnes qui interviennent?
Absolument. Et là, on va y revenir. C'est-à-dire que de faire la concurrence, ouvrir à la concurrence, en quelque sorte, demander plusieurs offres est une première solution. Mais ça ne signifie pas qu'il faut choisir les entreprises au hasard, hein, avant de les mettre en concurrence. Si vous souhaitez bénéficier des aides et financements publics, eh bien, ces entreprises devront, comme vous l'avez dit, impérativement être RGE, c'est-à-dire reconnues garant de l'environnement pour le type de travaux qu'on souhaite réaliser. Elles devront l'être d'ailleurs, attention, à la fois au moment de l'émission du devis, mais également jusqu'à la facture. Alors, en effet, on constate des entreprises, hein, moins scrupuleuses qui se réclament de cette qualité. Ils apposent sur leur devis le logo RGE sans en avoir la qualité, voire même vont jusqu'à usurper le numéro d'identification
d'une
véritable entreprise RGE. Absolument. Bon, si c'est le cas, porter plainte et saisir le juge civil sont utiles, mais risquent de ne pas suffire pour régler les difficultés. À forte raison, ce type de professionnel s'empresse de s'évaporer dans la nature.
Justement, alors comment, quel conseil vous allez donner pour se prémunir contre de tels déconvenus?
Alors, est-ce qu'on peut vérifier
absolument
l'existence du RGE pour telle ou telle entreprise?
Et ça va être le point clé, parce que le conseil le plus simple, pour éviter au maximum les désillusions, mieux vaut prévenir que guérir en mettant toutes ses chances de son côté. Deux possibilités s'offrent alors aux particuliers. La première, c'est l'occasion de demander à ses voisins. Le bouche à oreille peut être intéressant, notamment si ces derniers ont fait ce même type de travaux. Ça peut constituer une piste intéressante, mais ne garantit pas non plus d'avoir affaire à une vraie entreprise RGE. La seconde solution, la plus fiable, Internet. Internet, mais pas n'importe comment. Méfiez-vous du référencement sur les moteurs de recherche, hein. Il n'est pas forcément fiable et les entreprises pourraient se réclamer frauduleusement RGE.
Les annonces sponsorisées qui leur permettent d'arriver en début de page.
Exactement, c'est-à-dire le référencement, on le met de côté. Pour séparer le bon grain de l'ivraie, il existe un site internet très utile dont on ne répétera jamais assez le nom, faire.fr. C'est très important. Ce site, en plus de vous aider pour déterminer quels seraient les travaux les plus pertinents et à quelles aides vous pourriez prétendre, eh bien ce site va permettre de trouver de véritables entreprises RGE.
Qui sont référencées.
Absolument.
Donc finalement, si on veut faire des devis, il faut aller sur faire.fr, sélectionner trois entreprises, leur demander des devis. On est sûr que s'ils figurent sur la liste, c'est carré.
On gagne du temps.
Et on gagne du temps.
Bien sûr.
On gagne du temps.
Mais C'est à jour, c'est à jour en permanence, parce que j'imagine que les entreprises, c'est mis à jour tous les, c'est à jour à votre connaissance?
Alors, c'est, vu la base de données, donc il y a un petit temps de latence, mais au-delà du référencement, on va trouver sur faire.fr, notamment les domaines dans lesquels ces entreprises sont RGE. Mmh. Pour ne pas vous faire croire, je suis RGE du sous-sol au toit, de la salle de bain.
Ah, il y a ça aussi. Bien sûr, parce que la notion d'RGE, elle est pas, oui, d'accord.
C'est aussi.
Il y a l'immeuble, il y a la façade, il y a l'intérieur, il y a les pièces comme, oui, bien sûr.
Exactement,
bien
l'isolation, sûr. Je bien vais sûr. Privilégier l'isolation par l'extérieur. Enfin, il y a des différences de qualification RGE. On va également connaître la période de validité du label. C'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire que si on va sur le site faire.fr, éventuellement l'entreprise, eh bien, on constate qu'elle n'a plus le label RGE parce qu'il est périmé, en quelque sorte. Et ça va également rassurer parce qu'on aura accès aux assureurs garanties décennales et éventuellement responsabilité civile avec le numéro des polices d'assurance.
Et on peut même s'assurer de la validité de la mise à jour de la police chez le à la RCP, par exemple, ou à la dommage ouvrage.
Exactement, tout est vérifiable. Fait. Et oui. C'est ici, pour éviter les désillusions, faire.fr, parce que tout est vérifiable dans le temps. Alors, une dernière chose, en matière de RGE, vous entendrez et lirez peut-être que certaines entreprises sont qualifiées RGE, alors que d'autres sont certifiés RGE. Alors, pas de panique, c'est la même chose à une nuance près. Une nuance près, si l'entreprise réalise les travaux elle-même, elle doit avoir la qualification RGE. On parlera de certification RGE quand une entreprise propose...
Sous-traite.
Exactement. Elle va proposer de la rénovation globale, elle va concevoir cette rénovation sous-traitée, et ces sous-traitants devront être eux-mêmes RGE. Et c'est elle qui assumera et suivra le chantier.
C'est ce qu'on appelle l'apériteur principal, ou le conducteur des travaux, ou le maître d'œuvre. Par contre, il est responsable à l'égard du client.
Absolument.
Toujours.
C'est lui qui répond, qui en répond à l'égard du client.
Merci Raphaël.
Merci pour ces précieux conseils, Raphaël Bartholomé. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau conseil IMO avisé de l'UFC Que Choisir.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Et vous êtes toujours dans votre grand rendez-vous de l'immobilier, 22e numéro, 3e saison, toujours fidèle. Merci en tout cas, ça vous concerne, 3e partie, les questions précises de nos auditeurs et ainsi que les réponses complètes de nos experts. Avec vous, l'ami Vincent.
Oui, et on accueille notre 3e expert du jour, c'est Xavier Demezois. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes avocat. Merci. À Paris, spécialiste de l'immobilier. Une première question d'Arthur de Dijon. Il a appris que son locataire pratiquait des sous-locations sans son autorisation sur le site Airbnb. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut solliciter et obtenir l'expulsion de son locataire à ce titre? Est-ce qu'il peut tout simplement récupérer ce que son locataire a perçu sur Airbnb sans son autorisation? Quels sont ses moyens d'action?
Bonne question, très bonne question.
On est effectivement dans l'actualité, puisque les plateformes de type Airbnb connaissent un succès assez intéressant. Et de plus en plus de locataires aujourd'hui s'amusent dans le dos du bailleur à sous-louer leur appartement sur des plateformes de type Airbnb. Et ils engrangent beaucoup d'argent d'ailleurs à ce propos. Et il arrive de plus en plus souvent que mon cabinet soit notamment saisi de ces questions-là, puisque les bailleurs se disent « mais j'apprends d'une part que mon locataire sous-loue dans mon dos et qu'en plus il a gagné de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire ?» Alors, il peut faire deux choses. Première
plus,
chose qu'il peut faire...
C'est interdit normalement.
Effectivement, l'article 8 de la loi du 6 juillet 89 et également le Code civil nous disent que la sous-location n'est pas possible sans accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Alors, il faut savoir qu'en plus de ces dispositions légales, cette clause est très 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 souvent reprise dans les contrats de bail. Voilà, c'est la clause la plus classique qu'on puisse retrouver. Donc par principe, il faut considérer qu'effectivement la sous-location est interdite si elle n'a pas été accordée par le bailleur. À défaut, la sanction est immédiate, c'est la résiliation judiciaire du bail. Sachant que le juge a un pouvoir d'appréciation pour expulser ou pas, mais de mon expérience, très souvent le magistrat prononce l'expulsion. Deuxième chose que peut obtenir votre auditeur, de façon concomitante, c'est qu'on lui restitue tout l'argent que le locataire a gagné dans son dos sur les plateformes de type Airbnb.
100%.
Alors 100%, je vais m'expliquer. C'est un principe très récent, jurisprudentiel, mais qui a été consacré aujourd'hui par la Cour d'appel et la Cour de cassation, qui repose sur l'article 546 du Code civil, qui est le principe de la restitution des fruits civils. Les fruits civils, simplement, ça veut dire que les loyers qui ont été perçus au titre de la sous-location sont des fruits, un peu comme les fruits qui tombent d'un arbre, et le bailleur, propriétaire, a le droit de récupérer ses fruits. fruits. Mais attention, et c'est là où aujourd'hui il faut être très prudent et très méthodique dans la démarche, ouais. C'est que c'est il faut à mon sens prendre un avocat pour faire cette démarche, m'expliquer pourquoi. Aujourd'hui les magistrats, tout le monde se précipite dans les tribunaux en disant je veux récupérer mon argent. Alors ils arrivent avec une capture d'écran Airbnb et ils disent au juge débrouillez-vous, je veux l'argent. Ça, malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, si vous voulez récupérer les fruits civils, il faut demander au locataire qui vous communique les décomptes Airbnb, mais très souvent il ne le fait pas.
Bah non,
c'est mieux encore, il désactive l'annonce Airbnb. Donc ce qu'il faut faire, d'où la présence de l'avocat dans cette démarche, c'est que l'avocat va se mettre en relation avec un huissier de justice et on va faire des captures d'écran qui vont être validées par un huissier de justice. Donc déjà après
avant
le locataire
au juge, etc. Ah oui, on est en amont.
On constitue des preuves. Ouais. Voilà. Ouais. Et on va après mettre en demeure le locataire avec ses constats d'écran, en disant bah voilà, on vous a pris sur le vif, vous pouvez supprimer votre compte. Aujourd'hui, on sait que vous faites du Airbnb. Communiquez-moi combien vous avez gagné sur Airbnb. Le locataire généralement ne répond rien. Donc le travail de l'avocat va être de demander en justice le décompte Airbnb du juge, qu'il obtiendra à coup sûr. Et après, il ira voir le juge pour demander l'expulsion et la restitution des fruits civils grâce au décompte qu'il aura obtenu d'Airbnb. Et là, on aura un travail complet.
L'expulsion.
Ah oui, l'expulsion. Ouais, ouais. Elle est fréquemment suivie parce que.
Et la responsabilité de la plateforme, elle est quand même engagée à minimum.
Alors ça c'est un autre sujet aujourd'hui, la responsabilité des plateformes.
Parce que normalement, est-ce que la plateforme doit s'assurer que le bail lui permet la sous-location?
Aujourd'hui, on a une actualité jurisprudentielle par une décision, je crois, du tribunal judiciaire de mémoire du 5 juin, mais vraiment de tête, hein, qui a été obtenue dans la mesure où un bailleur a poursuivi justement un locataire et Airbnb en responsabilité solidaire. Et le tribunal a suivi la réflexion du bailleur en disant qu'effectivement, il avait une responsabilité de ce qui se passait sur sa plateforme. Néanmoins, la décision est isolée et a été particulièrement critiquée dans la mesure où aujourd'hui, et c'est en appel, on attend évidemment comment ça va se passer, dans la mesure où en fait la plateforme considère elle qu'elle n'a pas à être responsable de tout le contenu. Donc c'est à mon avis une décision de cour d'appel qu'il faudra surveiller, mais aujourd'hui ça reste une décision isolée.
Merci Xavier. Question de Bernadette, de 7 maintenant. Elle a été informée par son syndic que son locataire organisait sans cesse des fêtes bruyantes avec des gens qui hurlent à toute heure du jour et de la nuit, qui laissent traîner les ordures. Ça a fait aussi l'actualité sur d'autres
ça fait pas
points
drôle,
là-dessus.
Hein.
C'est pas drôle du tout. La copropriété de Bernadette, elle la met en demeure de faire cesser ses nuisances. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour que son locataire mette un terme à cette situation, à cette gêne très, très embêtante? Et puis, est-ce qu'elle risque d'être poursuivie par sa copropriété?
Alors, effectivement, il faut que cette auditrice prenne le sujet très au sérieux. Déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà s'assurer de ce que reproche la copropriété à ce propriétaire. Parfois, on a un mail du syndic qui nous dit « il y a trop de bruit avec votre locataire, c'est un petit peu imprécis ». Là, dans votre dossier, on voit qu'il y a eu une plainte, on voit que c'est un petit peu sérieux. Il faut prendre le sujet, il faut le considérer. Donc, qu'est-ce que doit faire votre auditrice? La première chose qu'elle doit faire, c'est déjà dans sa relation de locataire, agir. Il faut savoir que le locataire a l'obligation, en vertu de la loi de 89, d'assurer une jouissance paisible des lieux. Bon. Donc, que doit faire votre locataire? Elle doit adresser une mise en demeure à sa locataire, en sourçant ce que lui a dit le syndic, en disant bah voilà, vous avez eu des plaintes, vous devez respecter la jouissance paisible des lieux, à défaut vous exposez à une expulsion. Bon, déjà cette première démarche est importante parce que vis-à-vis de la copropriété, elle montre qu'elle a fait diligence. Bon, mais c'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui la copropriété elle a deux modes d'action contre cette auditrice si jamais malheureusement les nuisances perdurent. Première chose que peut faire la copropriété, c'est évidemment d'agir directement auprès du propriétaire en disant bah vous n'avez pas agi suffisamment vous avez agi avec négligence, vous êtes contenté d'envoyer une mise en demeure qui n'a pas été suivie d'effet. D'effet, ça veut dire quoi? C'est que normalement, le bailleur doit aller jusqu'en justice pour demander la résiliation judiciaire du bail si le trouble effectivement est avéré. Bon, la copropriété, si justement elle considère que cette procédure n'a pas été jusqu'au bout, elle peut se substituer au propriétaire, ce qu'on appelle l'action oblique, notamment pour des violations du règlement de copropriété, pour des violations de clauses de bonne mœurs, ou pour des nuisances, toujours en règle générale. La copropriété peut dire, comme vous, propriétaire, vous avez été en carence de faire respecter le règlement de copropriété dont votre bailleur a l'obligation de respecter, je me substitue à lui, via l'action oblique, qui est une disposition du Code civil, et là, la copropriété se substitue et assigne directement le locataire en résiliation judiciaire du bail. C'est intéressant. Pas très courant, mais c'est intéressant. Oui. Et moi, je vois de plus en plus au cabinet des copropriétés, notamment avec des fêtes qui ont lieu via des plateformes, etc., qui n'arrivent plus à gérer les situations.
Mais ça peut paraître compliqué en amont dans la procédure, mais en fait, ça l'est pas tant que ça.
Non, ça l'est pas tant que ça, parce que la copropriété...
Il y a certains copropriétaires qui disent « Ouais, c'est chiant, ouais. Je vais faire la procédure. » Non, il faut leur dire.
Non.
C'est pas compliqué.
Non, c'est très simple. Il faut faire... L'auditeur doit faire une mise en demeure à son locataire. Si la mise en demeure est sans effet, on prend un avocat qui, lui, va faire sa propre mise en demeure. demeure. Là encore, c'est très important, la preuve, toujours la preuve. C'est bien de faire des mises en demeure et des procédures, mais il faut arriver armé devant un magistrat. Il faut arriver avec des constats d'huissier, il faut arriver avec des témoignages, il faut arriver avec un dossier qui est sérieux, il faut des captures d'écran qui ont été faites par un huissier de justice, pas avec un smartphone. Là, on arrive avec un dossier qui est costaud, et là, on peut obtenir des résultats.
Merci. Merci beaucoup, Xavier Demezois. Votre étude est, c'est Demezois, avocat. Et puis, j'en profite, vous sortez bientôt un guide juridique des bonnes pratiques du bailleur dans ses relations avec le locataire. Il est ici. Ça sort bientôt, c'est ça?
Oui, ça sera diffusé en ligne sur mon site internet gratuitement au courant du mois d'octobre.
L'adresse du site internet?
Demezois, avocat.
Demezois, avocat. Bon, d'ailleurs, Xavier, on va préparer une prise de parole, justement, sur la sortie de ce livre qui est très adapté à vous, les auditeurs. Merci encore une fois.
Merci à vous.
Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien voilà les amis, c'est terminé pour ce 22e numéro, 3e saison du grand rendez-vous de l'immobilier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, surtout, voilà, continuez à nous suivre de plus en plus. On va se retrouver le mois prochain, Guillaume.
Oui, on se retrouve le mois prochain avec un sujet qui intéresse beaucoup, beaucoup de Français, puisque nous parlerons du marché de la maison individuelle.
Voilà, gros sujet. Merci Guillaume et merci bien sûr aux équipes de Capital et de Radio Immo qui ont préparé cette émission. Je vous donne rendez-vous le 20 novembre à 18h05. Et d'ici là, n'hésitez pas à podcaster, à partager ce grand rendez-vous de l'immobilier qui est fait pour vous. À très bientôt. Salut.
Radio Immo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout, rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération, à retrouver sur radioimmo.fr et capital.fr.